La dernière fois, nous avons abordé la vie du roi Akazia et de Joram, deux fils du roi Akab, qui ont aussi un peu hérité de son attitude et son déviation, ses déviations au niveau idolâtrie. Le roi Joram, c'est le dernier de la quatrième dynastie des rois d'Israël du Nord. Cette quatrième dynastie a commencé au roi Omri. Pendant cette dynastie, il y a eu deux grands prophètes. Le premier grand prophète que nous avons déjà vu, c'est le prophète Élie. Nous avons médité sur la vie d'Élie et nous avons souligné ce que l'épître de Jacques relève, qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve pas. Et il ne tomba pas de pluie pendant 3 ans et 6 mois. Nous avons relevé que ce prophète était un prophète d'action, de puissance, de foi, de prière. Maintenant, nous allons voir la passation de relais au prophète Élisée. Mais pour introduire cette réflexion sur le prophète Élisée, nous allons lire dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 14, un petit passage où nous allons garder à l'esprit qu'en filigrane dans le ministère d'Élisée. Au chapitre 14 de Luc, à partir du verset 26, Jésus dit ceci: si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Évangile de Luc au chapitre 14. À partir du verset 26. Donc nous arrivons au verset 27. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Verset 28. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, en disant: cet homme a commencé à bâtir et il ne peut l'achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Voilà une parole percutante, mais ce que nous allons relever surtout dans notre réflexion aujourd'hui, c'est que avant d'agir, d'entrer dans une mission, avoir un objectif, la parole de Dieu nous demande de s'asseoir. Et dans la réflexion du Seigneur Jésus, il dit: avant de bâtir, avant d'affronter une armée, hein, il y a construire et combattre, il faut savoir s'asseoir pour calculer non seulement la dépense, mais aussi mesurer sa propre force face à ce que ce qui va arriver. Il est question donc de se donner les moyens pour accomplir sa mission. Élisée, vous allez voir dans ce que nous allons lire, qu'il va se donner les moyens. Nous les chrétiens, en deuxième lieu, comment allons-nous nous saisir les moyens que le Seigneur nous donne? Donc nous allons aborder la vie d'un prophète, le prophète Élisée, serviteur d'Élie, un prophète ambitieux et puissant pour Dieu, qui a su se donner les bons moyens pour accomplir sa mission, la mission que le Seigneur lui a donnée. Qui est ce prophète? Mais avant tout, nous allons lire dans 1 Roi, au chapitre 19, les versets 15 à 21. 1 Roi, chapitre 19, versets 15 à 21. Un roi, 19, 15 à 21. Il est question d'Élie. Élie est à Horeb. Après avoir été dans la dépression, il va donc jusqu'au mont Horeb et il est devant l'Éternel. Et nous lisons à partir du verset 15, « L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat d'Abel-Méola, pour prophète à ta place. Et il arriva que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. » Verset 19. Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui l'amourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Va et reviens. Bien, car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Nous poursuivons l'histoire dans 2 Rois au chapitre 2. 2 Rois au chapitre 2, et nous lirons les 18 premiers versets. Bien sûr, nous ne lirons pas toute l'histoire d'Élisée, mais nous ne lirons que cette partie-là. 2 Rois, chapitre 2, les 18 premiers versets. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis. Et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux. Et ils se partagèrent çà et là et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils furent passés, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. » Comme ils continuaient à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, « mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau d'Élie qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis, l'ayant vu dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Ils lui dirent, voici, il y a parmi tes serviteurs 50 hommes vaillants, veux-tu qu'ils aillent chercher ton maître? Peut-être que l'esprit de l'Éternel l'a emporté et l'a jeté sur quelque montagne ou dans quelque vallée. Il répondit, ne les envoyez pas. Mais ils le pressèrent longtemps et il dit, envoyez-les. Ils envoyèrent les 50 hommes qui cherchèrent Élie pendant 3 jours et ne le trouvèrent point. Lorsqu'ils furent de retour auprès d'Élisée, qui était à Jéricho, il leur dit, ne vous avais-je pas dit, n'allez pas. Donc nous sommes là, devant, d'une part, la passation de relais entre Élie et Élisée, d'autre part, la prise en main d'un ministère et l'engagement d'Élisée à poursuivre le ministère d'Élie. Tout à l'heure, dans le chapitre 19, nous avons vu que c'est Dieu lui-même qui dit à Élie de oindre Élisée pour être un prophète, le prophète à sa place. Mais qui est ce prophète Élisée? Nous avons lu aussi dans le chapitre 19 d'un roi qu'il venait d'un village qui s'appelle Abel-Méola. Il semblerait que c'est un village dans la vallée du Jourdain. Nous constatons aussi que son nom est Élisée, qui signifie « Dieu est salut ». Élie, son nom signifiait « L'Éternel est mon Dieu ». Élisée, donc, par son nom, était dans un milieu, en principe, qui connaissait Dieu. Nous constatons aussi que il avait devant lui 12 paires de bœufs, qui est une manifestation d'une famille aisée. D'autre part, nous constatons aussi que quand Élie vient le voir et l'appeler à le suivre, il était en train de labourer un champ. Bien sûr, il s'agit probablement d'un champ de son père, hein, de sa famille. Donc, Élisée était dans une famille qui connaît Dieu par son nom, dans une famille aisée, et aussi c'est un homme qui était solide physiquement pour lui-même labourer. Quant à l'appel d'Élisée, c'était au moment sûrement de la préparation des terrains pour la semence. Élisée était en train de labourer. Élie vient, s'approche de lui, dit le texte, et il jette sur lui son manteau. C'est un geste d'appel, en disant « suis-moi », mais aussi c'est un geste qui est de protection. « Je te prends sous mon aile, je vais m'occuper de toi ». Alors, bien sûr, nous voyons Élisée qui prend la décision de suivre Élie, mais avant cela, il veut faire l'adieu auprès de sa famille et de son village. Donc, nous constatons qu'il va prendre une paire de bœufs et avec son attelage, il va faire un sacrifice. Ce sacrifice, il va aussi partager la chair de ce sacrifice avec les villageois, et il quitte et son père, sa famille, ses amis, son travail, et il devient, d'après le verset 21 du chapitre 19, il fut au service d'Élie. Plus tard, pour confirmer cette position de service, nous voyons au chapitre 2 que nous avons lu tout à l'heure que les fils de prophètes rappellent à Élisée que l'Éternel voulait enlever son maître. Donc il était quand même bien au service d'Élie. Au chapitre 3, il est même appelé quand Élie est enlevé et que le roi Josaphat fait appel à un prophète de l'Éternel, il est appelé celui qui versait de l'eau entre les mains d'Élie. Donc voilà, nous voyons l'appel, nous voyons la position d'Élisée pendant la vie d'Élie. Après l'enlèvement d'Élie, Élisée poursuit la mission de son maître. Il ne s'agit pas d'une autre mission, il s'agit de poursuivre la mission, c'est-à-dire être le prophète de l'Éternel, c'est-à-dire parler au nom de l'Éternel au peuple d'Israël qui était à l'époque sous le règne tout d'abord d'Akab et de Jézabel, et puis le règne d'Akazia, puis le règne de Joram. Mais il y a une chose à constater, c'est que il y a une ressemblance entre les actions plutôt d'Élie et d'Élisée. Je vais essayer de les noter rapidement. Tous les deux frappent les eaux du Jourdain et le traversent à sec. Tous les deux font apparaître de l'eau pendant la sécheresse. Élie, c'est la pluie. Et Élisée, c'est dans le désert. Tous les deux augmentent les faibles mo de moyens de subsistance d'une veuve. Élie, c'est à Sarepta, et Élisée, c'est cette femme qui était du peuple de Sidon, qui avait rien à manger. Tous les deux ressuscitent un fils unique. Tous les deux accomplissent des miracles en faveur de personnes hors d'Israël. Pour Élisée, vous vous rappellerez de l'histoire de Naaman. Tous les deux prononcent des jugements sur les rois. Tous les deux font venir la vengeance sur les incrédules. Ce sont donc deux prophètes qui se ressemblent sur leurs actions. Pourtant, ces deux prophètes ont sont différents. Par exemple, Élie est un prophète solitaire. On le compare avec Jean-Baptiste. Il est toujours solitaire. Il ne voit pas de compagnons prophètes autour de lui. Il dit à l'Éternel, j'ai déployé ma force, je suis seul. Ils ont tué tes prophètes et ils cherchent à enlever ma vie. C'est ça, Élie. Si bien que se sentant seul face à Jézabel, il a vraiment été, il a été dans le découragement. Par contre, il a manifesté de grandes victoires. Mais par contre, ces victoires-là n'ont pas laissé de suite auprès du peuple. Hein? Quand il a tué les prophètes de Baal, ça n'a pas changé la vie d'Akab et de Jézabel. Au contraire. Et puis nous connaissons vers la fin de sa vie, il a vécu un profond découragement. Ça, c'est Élie, prophète solitaire qui fonce tête basse, mais qui est arrivé quand même à se décourager. Élisée, lui, a une vie plutôt communautaire. On voit autour de lui les fils de prophètes. Si vous lisez toute son histoire, les fils de prophètes sont toujours là. Les fils de prophètes ont des problèmes, lui, il agit. Il est là, il les accompagne. Il se mêle aux gens. Mais il reste puissant. Il a demandé à ce que Dieu lui donne la double portion de l'esprit d'Élie. Il est puissant même quand il est dans son lit de mort. Il continue à manifester autorité et à révéler le plan de Dieu au roi. C'était le roi Joas. Poursuivons, présentons un peu ce Élisée, caractère et attitude. Nous avons déjà souligné que c'était un homme solide qui pouvait labourer. Et sûrement, il était jeune au moment où Élie l'appelle. Il était un homme solide, énergique. C'est le verset 19 du chapitre 19 de 1 Roi. Il est aussi quelqu'un qui décide tout de suite. Il abandonne tout pour suivre Élie. Et rappelons-nous l'histoire des apôtres. Combien les apôtres qui étaient pêcheurs laissaient la barque, les filets et leurs parents pour suivre Jésus. C'est exactement ça. Élisée était un homme qui était conscient qu'il avait besoin d'une aide spirituelle pour pouvoir être au service d'Élie. Élisée parle avec autorité au nom de l'Éternel. Quand il parle, c'est comme une oracle de Dieu. Il met toute sa personnalité au service de sa mission. Il est intègre et refuse tout cadeau. Rappelez-vous que le Naaman, ce lépreux guéri, voulait lui faire un grand cadeau et il a refusé parce qu'il n'est pas quelqu'un à qui on peut payer le service. Il vit toujours dans l'esprit de victoire, avec une vision spirituelle. Il manifeste, on l'a dit tout à l'heure, encore de l'autorité même sur son lit de mort. Il a une merveilleuse influence posthume. Même après sa mort, il y a de l'influence sur le peuple. Et nous constatons aussi qu'Élisée était un conducteur spirituel modèle. Hein? Il est le conducteur de tous ses fils de prophètes qui, non seulement à Bethel, mais aussi à Jéricho. Maintenant, nous abordons la demande d'Élisée à Élie. Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élisée a pris le temps, même si le texte nous le dit, à calculer la dépense et à examiner les forces à disposition. Mais on peut se poser la question. Dans sa demande, il demande une double portion de la part de l'esprit qui était en Élie. Est-ce qu'on ne peut pas penser qu'il s'agit là d'une ambition, ça pourrait être une ambition égoïste pour paraître super fort, pour paraître comme le super prophète, pour paraître comme celui qui réussit tout, plus que Élie? Ou bien c'est le résultat d'une prise de conscience qu'il avait réellement besoin de la force venant de l'Éternel pour accomplir sa mission. On ne remplace pas comme cela un prophète comme Élie. Il réalisait la différence entre ce qu'a déjà fait Élie et ce qu'il allait faire par la suite. Nous constaterons cela dans toute l'histoire d'Élisée. Élisée connaissait la difficulté du rôle du prophète. Peut-être Élie a tout raconté. Élisée peut-être était au courant que Jézabel et Achab ont massacré les prophètes de l'Éternel. Alors, je pense, c'est à ce moment-là qu'Élisée s'est reconnu doublement faible et a demandé la portion double de l'esprit qui était sur son maître Élie. Mais est-ce qu'il l'a décidé comme ça de sa tête, qu'il fallait double portion? Nous pensons que les personnes dont les commentaires on trouve dans les commentaires bibliques disent que cela ne s'est pas passé seulement comme cela parce qu'il y a une signification dans cela. La double portion est la part d'héritage du fils aîné. Nous le voyons dans Deutéronome 21, verset 27. Alors, en quoi Élisée pouvait réclamer la part du fils aîné par rapport à Élie? Rappelons-nous que Élie l'a appelé avec son manteau. Il l'a pris sous sa protection. Élie est devenu son père spirituel. Et Élisée est le héritier du ministère d'Élie selon la volonté de Dieu. Ainsi, il est de droit pour Élisée de demander la part du fils aîné par rapport à Élie, son père spirituel. S'asseoir, réfléchir sur la dépense et sur les forces à disposition pour affronter un combat. Élisée était, avant de demander ce double portion, avait été conscient de son besoin. Élie, lui, répond à son élève, son disciple, que ce qu'il demande est une chose difficile. Mais cela est possible s'il ne le quitte pas des yeux. Et nous constatons que depuis Gilgal, Bethel, Jéricho, Jourdain, Élisée n'a cessé de fixer les regards sur son maître. Il ne l'a pas laissé un instant. Et quand nous lisons dans ce verset, dans le chapitre 18, il répondit à Élisée, il dit, l'Éternel est vivant, c'est le verset 2, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point, et ils descendirent à Bethel. Après ce sera Jéricho et après ce sera Jourdain. Donc, depuis Gilgal, il était déjà attaché à fixer son regard sur son père. Je ne te lâcherai pas d'une semelle. Par la suite, dans l'histoire même d'Élisée, nous constatons que les actions d'Élisée, les œuvres d'Élisée vont démontrer que Dieu lui a accordé cette double portion d'Élie, de l'esprit d'Élie. Nous parlons de l'esprit de Dieu là, que Dieu a accordé à Élie et que une double portion a été donnée à Élisée. Nous savons aussi que dans l'ancienne alliance, ça se passait comme cela. Et Dieu pouvait même enlever l'Esprit Saint, donner l'Esprit Saint pour une mission, pour une œuvre, pour un moyen précis pour atteindre une action précise. Mais Dieu pouvait dire, voilà, c'est terminé, je t'enlève l'Esprit. Rappelez-vous que dans sa confession, David, dans le psaume 51, il demande à Dieu de ne pas lui enlever l'esprit. Parce que ça, c'était comme ça à l'époque. Dans la nouvelle alliance, Jésus promet à ses disciples d'être la demeure éternelle du Saint-Esprit. On le voit cela dans l'évangile de Jean au verset 16. Il n'y a donc plus besoin de demander l'Esprit Saint. Élisée est d'une part conscient de sa mission et d'autre part a besoin d'une aide plus intense de la part de l'Esprit Saint. Voilà en ce qui concerne Élisée. Maintenant, nous, aujourd'hui, nous chrétiens, quel enseignement, quelle leçon nous allons tirer de la vie d'Élisée quant à sa demande à Élisée d'avoir une double portion de l'Esprit Saint? Le chrétien, comme Jésus l'a dit, est appelé aussi à s'asseoir et à calculer la dépense. Le chrétien est appelé à examiner ses propres forces face à la mission que le Seigneur lui accorde. Si le chrétien n'a pas à demander le Saint-Esprit, la parole de Dieu lui demande d'être rempli du Saint-Esprit. C'est-à-dire avoir une intelligence renouvelée par l'action du Saint-Esprit. Être dirigé par l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu demande aussi aux chrétiens de marcher selon l'Esprit. Nous le voyons dans le chapitre 8 des Romains. Rempli du Saint-Esprit, marcher selon le Saint-Esprit. Mais dans la vie de ce prophète que nous venons de voir, il y a combat de tous les jours. Et dans la vie du chrétien, il y a aussi combat. Et quant au combat, l'ordre de Dieu, nous le voyons dans Éphésiens au chapitre 6, c'est de prendre toutes les armes de Dieu. Alors, revenons un peu en arrière, nous disons que le prophète Élisée, lui, était conscient de son besoin, il connaissait ses forces, alors il a demandé une double portion de l'Esprit de Dieu par rapport à l'Esprit qui a été donné à Élie. Nous, chrétiens, nous sommes appelés aussi à être conscients de notre position, notre force, et d'être, non seulement de demander l'Esprit de Dieu, mais être rempli plutôt de l'Esprit de Dieu et de marcher selon l'Esprit Saint. Ensuite, quant au combat, c'est de saisir, prendre toutes les armes de Dieu concernant la puissance. Parce qu'en parlant de l'Esprit Saint, quand on lit Actes chapitre 1, verset 8, il dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Alors là, concernant la puissance, il est question expressément de la position du chrétien comme étant témoin de Jésus-Christ, représentant de Christ, ambassadeur de Christ. Il ne s'agit pas d'avoir une puissance pour paraître. Et Élisée avait compris aussi. Il a demandé force pour combattre. Et le chrétien aura la force du Saint-Esprit pour combattre. Mais combattre contre qui? Et Éphésiens 6 nous parle que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités. Et c'est là dont nous avons besoin des armes et des puissances du Saint-Esprit. Élisée était le prophète de l'Éternel. Sa mission était d'être le porte-parole de l'Éternel pour Israël. Il était le représentant de Dieu dans le royaume d'Israël. Cette position, nous l'avons en Christ dans ce monde. Nous sommes appelés à être la lumière du monde, le sel de la terre. Le chrétien est donc appelé à se revêtir de toutes les armes de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Je vous propose de lire tout ce passage, Éphésiens au chapitre 6. Et au verset, à partir du verset 10. Au reste, frères, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayant à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec entière persévérance et priez pour tous les saints. Je vous ai dit de garder à l'esprit les paroles de Jésus, de s'asseoir pour examiner, s'asseoir pour calculer. Et nous voyons que C'est exactement ce qui s'est passé dans la vie d'Élisée, dans cette demande d'avoir une double portion. Et ça devrait être aussi pour nous, dans le cadre de s'asseoir pour calculer la dépense, s'asseoir pour calculer nos propres forces. Pour le chrétien, le Seigneur a prévu une armure de six pièces, de six éléments, composant six éléments, cinq éléments défensifs et un élément offensif qui est l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Il ne s'agit pas de prendre un élément, il ne s'agit pas d'une option pour ceci ou pour cela, il s'agit de prendre tout le paquet pour tenir ferme, pour résister. Alors, reprenons rapidement ces six éléments. La ceinture, la vérité, vivre dans la vérité pour la vérité. La cuirasse, vivre pour la justice et dans la justice, être juste. Les chaussures, c'est le courage, c'est le zèle, il faut aller de l'avant, c'est l'évangile, pour l'évangile. Est-ce que l'évangile, c'est seulement quelque chose que nous avons reçu et puis ça y est, c'est basta, je suis sauvé. Mais aussi l'évangile est à partager, le zèle. La foi au Seigneur, il est appelé le bouclier. La foi, c'est ce qui nous permet de tenir debout. Avoir la certitude de son salut, c'est le casque. On n'est pas. La parole de Dieu nous appelle à être au clair quant à notre salut. Hein? Jésus en parle au chapitre 10 de l'évangile de Jean où il dit, je leur donne la vie éternelle, ils ne périront jamais, hein? Nul ne les ravira de ma main, mon Père est plus fort que moi, nul ne les ravira de la main de mon Père. Ça c'est la certitude du salut, le salut qui est incertain ou qui se perd, ça n'est pas le casque du salut. Et ensuite, bien sûr, user de la parole de Dieu, se nourrir de la parole de Dieu, qui est l'épée de l'esprit. C'est à travers l'épée de l'esprit que nous pouvons désarçonner les pièges de l'ennemi. C'est l'attaque. Si nous sommes conscients de nos besoins spirituels, ne laissez pas de côté aucun élément de cette armure. On prend toute l'armure. Comme Élisée, soyons des personnes ambitieuses concernant nos besoins spirituels en vue de marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. Éphésiens 4.1. Nous avons une vocation et cette vocation, c'est notre mission. Alors, comportons-nous comme Élisée avec l'armure qui nous est proposée ici. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen.